Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre épisode.
votre épisode de podcast. Préféré.
Allô. Alors,
peut-être un jour enregistrer une
intro.
Genre une intro.
Mais moi, ça m'énerve, les intros.
Ouais, j'avoue. Hein.
Que c'est tout à pareil, là.
Ouais, c'est vrai.
Moi, j'aime ça, justement, des affaires de même. <J'aime>
ça fait nous pas mal.
Ça fait très nous.
Ça fait vraiment nous.
Fait qu'on est des non-professionnels, comme vous le savez. Je sais que ça paraît vraiment pas, là. On est tellement
ça paraît
bien.
Vraiment pas, mais on n'est pas des professionnels de la criminalité. Ça
ni du podcast.
Non, vraiment. C'est ça que ça fait quand on enregistre deux épisodes back-to-back. Ouais. Le deuxième, on est un peu fuckés.
Hey, d'ailleurs, je viens de penser à quelque chose que je veux dire depuis tellement longtemps. Il y a plusieurs Français, surtout, qui nous écrivent pour nous demander qu'est-ce que ça veut dire, crime de bine. Alors, je vais l'expliquer pour les Français.
OK, j'allais dire, t'as une explication?
Ben oui.
Vas-y.
Ben, dans le fond, c'est comme une expression québécoise qui veut dire « ah, zut ». Fait que dans le fond, t'sais, au lieu de dire un mauvais mot, t'sais, au lieu de dire « ah, ah, calice », ben là, on va dire « ah, crime de bine ».
Okay.
C'est comme une petite expression pour qui empêche de sacrer.
Moi,
parce
c'est souvent, mettons, je me cogne sur le coin d'une table, je dis crime de bine.
Ah ouais?
Ouais.
Non, moi, si je me cogne sur le coin d'une table, je dis tabarnak.
Ah!
Ouais.
OK.
Ouais. Voilà. Merci, fait que pour nos éditeurs.
Je pensais que t'allais dire genre que t'as l'étymologie de l'expression. Que
ah non,
on utilise le mot bine parce que. je pensais
c'est
que c'était
cute.
Ça. Crime de bine, ouais, c'est plus. Ouais. Oh. Ou voilà. Genre, oh là là.
Ouais.
Genre, oh,
ouais.
Crime de
bine. Oh là là, ouais.
Genre, Maudine.
Maudine.
Mais Maudine, comprends. Ah, OK, ouais. je m'écarte.
Oui, alors aujourd'hui, on est là pour vous raconter une histoire et oui. On a un shout-out à faire.
On a un shout-out.
Qui date de vraiment longtemps, je m'excuse, les filles.
De Rebecca. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu l'écris en majuscule et en minuscule? C'est R-E-B majuscule E-C-C-A.
C'est peut-être de même si c'était écrit sur Insta.
Ah, peut-être.
Peut-être.
Moi, je pense que c'est toi qui as un problème.
Peut-être.
Bref, elle dit, Rebecca, passez un petit bonjour à mes amis Catherine et Marie-Pierre. Nous nous surnommons affectueusement les Bines depuis 2015, date à laquelle nous avons suivi ensemble un cours de plongée dans lequel on nous expliquait l'importance d'un binôme. On s'est même fait... On s'est même fait faire des casquettes qui disent « The Bins » qu'on porte fièrement en voyage.
C'est nice, hein?
Oh, c'est trop drôle! J'aurais voulu passer celle-là. Oh, Rebecca, merci beaucoup. Ça nous fait rire.
C'est oui, affaires-là. Vraiment.
Ou les gens qui nous écrivent des courriels, des messages qui disent « Bonjour les Bins ». J'aime full ça.
Ah, oh, puis j'avais fait un shout-out à Jessie, puis je m'en rappelle, c'est un gars ou une fille, il m'a écrit pour dire « C'est un gars
». Ah, c'est pour ça qu'en haut, elle vient de me passer son ordi pour que je lise le shout-out, puis en haut, c'est écrit « Jesse, c'est un gars. » Je me demandais pourquoi c'était écrit ça.
OK, j'oublie pas
c'est
de
un
dire.
Gars. Ouais. Merci, Jesse. Calique, qu'on a de l'air un peu n'importe quoi.
Eh, non, mais surtout, c'est moi, là. Moi puis mes notes, là.
Oui, c'est je confirme.
Ouais.
C'est Rebecca en majuscule et minuscule, et Jesse, c'est un gars.
Okay.
Là, il faut qu'on vous raconte l'histoire parce qu'il faut aller chercher bébé Angela à la garderie.
Oui, c'est fait ça. Mais attends, j'ai ben, genre de crime de potin, mais en fait, c'est une explication. Je trouvais ça vraiment pertinent de la lire. De j'aurais pas vu si elle va être anonyme, fait que je vais dire son nom, puis au pire, je vais couper. Fait que c'est une explication de Sophie L. Alors, elle dit « Salut les filles, j'adore votre podcast. Je suis éducatrice spécialisée. Je travaille depuis plus de 15 ans en centre jeunesse. Malheureusement, j'ai certains de mes anciens clients qui sont devenus des tueurs à l'âge adulte. Oh. » À l'épisode 47, vous demandez « Qu'est-ce que le trouble des conduites? »
Ah oui!
Tu sais, c'était dans l'épisode de la fille de 12 ans qui a tué ses parents là, puis son frère. Dans le fond, c'est le avant-psychopathe. Alors, c'est généralement dans cette période qu'on voit des ados tuer des animaux et faire des délits. Généralement, on peut y voir une absence d'empathie. C'est la naissance des troubles de personnalité antisociale et narcissique. Comme la délinquance est la naissance de la criminalité, le trouble des conduites est vraiment le lien direct avec la psychopathie. Avant 18 ans, les psychiatres n'ont pas le droit d'émettre des diagnostics de santé mentale, état permanent. Ils émettent des troubles de, qui peuvent être résorbés. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'un ado est psychopathe. On peut dire qu'il y a des troubles de quelque chose. C'est intéressant, ça.
C'est vraiment intéressant. Parce qu'on voit souvent troubles de.
Oui, c'est ça. Puis elle dit « Mon expérience m'a permis de voir qu'un trouble de à 12-13 ans peut être réversible, mais quand c'est à 16-17 ans, vous en ferez une émission un jour.
» Oh God!
Et aucun de ces troubles est neurologique de naissance. Ces troubles s'installent suite à des traumas.
Eh bien!
Oui, c'est vraiment intéressant.
C'est extrêmement intéressant. Ouais, je savais pas beaucoup de nous avoir écrit.
Du tout. Qu'on ne pouvait pas diagnostiquer des jeunes, dans le fond. Non, ils ne
peuvent pas être psychopathes.
Ouais.
Puis les troubles de... Je me suis toujours demandé pourquoi on dit troubles de et des fois, juste la maladie. Wow!
Merci.
Merci vraiment Sophie. Beaucoup de nous avoir écrit, Sophie.
Oui. OK.
Fait que là, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui?
OK.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël, gang. Je vous raconte de quoi de pas joyeux pour Noël. Mais ça a un peu rapport à Noël.
Ben, pas vraiment. Là.
Mais un peu. Mais pas tant.
Mais pas vraiment.
Alors, je te raconte.
Je connais pas l'histoire, by the way. Je connais juste le pourquoi. Le pourquoi, c'est... On le fait aujourd'hui.
OK. Je te raconte le meurtre d'Éric Arpin. Alors, mes sources Radio-Canada, Coulopolis et, of course, un épisode d'Un tueur si proche qui est disponible sur YouTube.
Ah, il est disponible, lui?
Oui, qui s'appelle Le tunnel. Si un tel meurtre se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?
Cette voix.
Alors, je te parle du petit Éric, qui est la victime de notre histoire. Alors, Éric est né en 85. Son papa, c'était Réal Arpin et sa maman, Maria Demers. Il est né à l'Île-Perrot et il y avait une demi-sœur qui s'appelait Mélanie.
Coucou!
Et qui était de 8 ans son aînée. Fait qu'il avait le même père avec Mélanie. Okay. Puis, il avait vraiment une relation spéciale. Puis, c'était, t'sais, c'est, vu qu'elle était plus vieille que lui, elle s'occupait vraiment beaucoup de lui. C'était comme sa gardienne, souvent. Puis, les parents se sont séparés et sa mère, Maria, déménage à Magog avec Éric. Bon. Fait que son père et sa demi-sœur, ils restent à l'Île-Perrot, proche de Montréal. Puis, il va vraiment souvent les visiter la fin de semaine. Éric, il était assez gêné. Il n'avait pas beaucoup d'amis, mais c'est un petit gars super brillant. Puis, sa mère lui disait souvent de ne pas parler aux étrangers. Alors, l'histoire se déroule le vendredi 16 décembre 1994 à Magog. Donc, tu vois, ça se passe quand même en décembre de 1, mon premier lien avec Noël.
C'est pas le lien que moi je connais.
Non. Alors, Magog, c'est en Estrie, au sud du Québec. Alors, Éric a 9 ans à ce moment-là et il s'apprête à aller passer la fin de semaine chez son papa. Avec sa sœur et tout. Mais avant, dans le fond, le vendredi, il reste chez sa mère. Au lieu de partir tout de suite, il va juste y aller samedi chez son père. Parce que ce vendredi soir-là, c'est une soirée spéciale et c'est la remise des prix du Club des Petits Débrouillards.
Oh!
C'est cute. On me rappelle de ça, le Club des Petits Débrouillards.
C'est pas avec Grégory Charles?
Ouais.
Ouais.
Fait que là, sa mère, elle lui rappelle d'aller à sa soirée. Fait que là, il part à 18h. Puis, il doit revenir à 20h, à pied, tout seul. Puis, c'est parce que c'est à 10 rues de la maison.
OK.
C'est vraiment proche.
Parce qu'il est quand même jeune, mais...
Oui. Puis, c'est Magog. C'est quand même une petite ville quand même très sécuritaire. Oh, oui. Alors, Maria s'attend à le voir revenir avec son diplôme à 8h. Mais là, vers 20h40, elle commence à s'inquiéter. Elle appelle ses amis pour savoir s'ils l'ont vu, mais personne ne l'a vu. OK. Fait que là,
pas de cellulaire à cette époque-là.
Non, pas de cellulaire. Fait que là, elle finit par faire le chemin entre l'école puis la maison. Puis, elle passe par un certain tunnel piétonnier qui passe sous un chemin de fer, dans le fond.
Oh.
Qu'il fallait prendre ce petit tunnel-là pour aller à l'école. Mais elle voit aucune trace d'Éric, rien du tout. Fait qu'elle retourne à la maison pour appeler la police. Puis là, ensuite, elle appelle chez le père d'Éric, son ex. Puis là, la demi-sœur aussi, elle a contacté la police. Bref. Fait qu'ils ont contacté vraiment rapidement la police. Et à 22h, les policiers décident de patrouiller les rues de Magog. Fait qu'ils niaisent pas. C'est un petit gars de 9 ans.
Ouais.
Il aurait dû revenir. C'est vraiment pas normal. Fait que là, pendant à peu près une heure, là, les policiers, ils passent là, t'sais, aux mêmes endroits. Là, t'sais, le chemin qu'ils auraient dû faire, les rues autour... Fait que là, en parlant aux autres enfants puis aux autres parents, la mère a réussi à confirmer qu'Éric a bien passé la soirée au club scientifique. On confirme qu'il est sorti vers 20h, tout fier avec son petit diplôme des débrouillards. avec un ami. Puis même avant qu'il parte avec son ami, il y a le père d'un autre ami qui a vu le petit Eric, puis a dit, tu sais, qu'il a offert un livre jusqu'à la maison parce qu'il faisait souvent des livres. Mais Eric a dit non, je veux marcher avec mon ami. Okay. Il a refusé le livre. Fait que là, il commence à marcher avec son ami, mais après quelques coins de rue, son ami se rend compte qu'il a oublié ses gants au club. Alors là, Eric, qui est trop gentil, ben là, il dit qu'il va aller chercher les gants au club pour son ami, puis qu'il va y redonner demain. Puis là, je suis comme, mais pourquoi c'est Eric qui est allé chercher les gants au lieu de son ami? En tout cas, pas clair. Mais bref.
Il y a tellement beaucoup de raisons. Que...
Mais à, fait qu'à ce moment-là, ils se sont séparés.
OK.
Et c'est la dernière personne qui a vu Eric, c'est ce petit ami-là, dans le fond. Alors...
C'est fou comment ces histoires-là tiennent à un cheveu.
Tellement, là. Il y a tellement de choses qu'il aurait pu faire qu'Eric, il serait encore en vie aujourd'hui, là.
Ou ça aurait pu être l'autre petit garçon.
Oui, aussi, tu sais.
C'est capoté.
Oui. Alors, à 23h, les policiers rappellent la mère d'Eric. Puis ils lui disent de venir au poste. Là, elle pense qu'ils ont trouvé Eric. Ben, ils l'ont trouvé, mais ils l'ont retrouvé mort. Fait que... Alors, ils ont retrouvé le petit Eric dans le tunnel piétonnier qui passe sous le chemin de fer.
Mais la mère était passée, là?
Oui, la mère est passée, la même que la police est passée.
Ouais.
Puis c'est plus tard qu'en repassant, ils l'ont trouvé.
Hein?
Mais tu sais, la mère, elle est passée, mettons, à 9h30, puis Eric était pas là, là. Puis à 11h, les policiers l'ont trouvé, tu sais.
Fait que la personne est revenue porter le corps, là?
Ouais. Ouais.
Ben voyons donc. Mm-hmm. C'est bien...
C'est wack. Fait que là, le lendemain, les policiers, ils font appel à la population pour récupérer des informations. Ils ont rencontré environ 150 personnes avant d'avoir des soupçons sur une personne. Parce que là, il y a beaucoup de citoyens qui pointent du doigt un dénommé Camille Noël.
Et voilà.
Voilà le lien.
C'était ça son lien avec Noël, la gang.
Le gars, il s'appelle Noël.
Jugez-la, s'il vous plaît. Merci.
Voilà, merci. Mais Camille Noël, c'est un peu l'idiot du village. Genre, il a vraiment mauvaise réputation, il est bizarre. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah ouais, c'est Camille », mais tu sais, au début, les policiers sont comme « Ben, tu sais, c'est pas parce que tout le monde le pointe du doigt parce qu'il est bizarre que c'est nécessairement lui qui a tué le petit gars, t'sais. » Mais là, je te parle un peu de Camille. Oui, il s'appelle Camille.
De L-L-E?
Ouais, L-L-E, ouais.
Pas Camille?
Camille, ouais.
Camille. C'est L-L-E?
Ouais.
OK.
Ouais.
Camille,
en tout cas, c'est un gars. Mais là, c'est pas juste Camille Noël. C'est Camille et Serge Noël, parce que c'est les frères Noël, en fait. Alors, je te parle des frères Noël.
Ouais, vas-y.
Alors, Camille, il avait 34 ans à ce moment-là, et Serge, 43 ans. Alors, les deux ont grandi à Magog, dans une famille nombreuse. Camille, je vais l'appeler Camille, je pense.
Mais si c'est L-L-E, c'est Camille.
Ouais, j'avoue. Camille. OK, Camille. Il est rapidement limité par ses capacités intellectuelles. Parce que, puis même que, genre, ça l'empêche de poursuivre un programme scolaire. Alors, à l'âge adulte, il sait pas écrire, il sait pas lire. Il a un raisonnement logique déficient, mais il arrive quand même à fonctionner en société. Il évaluait les choses à très court terme. Il n'arrivait pas à voir vraiment au long terme. C'était un déficit assez important, puis il avait un quotient intellectuel de 61. Ce qui est considéré comme avoir un retard mental, en fait.
Est-ce qu'on sait c'est quoi le average? La moyenne?
La moyenne, ça doit être autour de... La moyenne du quotient intellectuel, merci Google et merci Wikipédia. Donnez à Wikipédia si vous avez 2$, 3$. est fixé à 100.
100?
Ouais.
Et lui, c'était 61?
61.
OK.
C'est vraiment, vraiment très bas.
Oui.
Genre, en bas de 70, c'est comme retard mental.
Déficience intellectuelle. OK. Ouais.
Voilà. Alors, ça, c'est Camille. Et Serge, lui, apparemment, il était pas vite non plus, mais quand même, il était plus apte à fonctionner en société, mettons. Il n'y avait pas de retard mental.
De retard, OK.
Mais c'était peut-être pas le pogo le plus dégelé de la boîte.
Cette expression.
J'adore cette expression. Fait qu'en novembre 1994, Camille y déménage sur la rue Stanley à Magog. Son frère Serge l'aide à déménager. Puis apparemment que les voisins, ils ont dit que les gars, ils ont fait vraiment beaucoup de bruit en déménageant, puis ils étaient vraiment désagréables.
Oh God.
Bref, les voisins étaient comme pas impressionnés.
Ils trippaient pas sur leur cas.
Non, pas contents de les voir arriver là. Et Camille avait été en prison pas longtemps avant, entre autres pour avoir mis le feu à des poubelles et avoir fracassé des vitrines de magasins.
OK.
Il se mettait dans le trouble.
Fait qu'il était déjà connu des policiers. Ouais. OK. Ouais.
Mais pas pour des trucs trop graves.
Ben, non, quand même.
Ben, attends. Plus tard, j'ai comme trouvé d'autres informations. C'est passe-temps à Camille. Et il aime écouter des films pour enfants et il fabrique des cabanes d'oiseaux avec son frère Serge.
OK.
Ils sont vraiment inséparables, les deux. Parce que, ben, tu sais, en plus, Serge, c'est de 9 ans, c'est, il y a 9 ans de plus que Camille. Puis, évidemment, il y a beaucoup d'influence sur Camille. Puis même un certain contrôle. Mm-hmm. Ben, c'est normal, il est plus vieux, puis...
Ouais.
Camille n'est pas très intelligent, fait qu'il suit son frère, tu sais. Les voisins avaient quand même peur de lui. Et, apparemment, il parlait souvent de la mort. Genre, mon ami est mort.
Camille ou Serge?
Camille.
Okay.
Il arrivait, puis il était comme... Il parlait de mort, puis il était là, mon ami est mort, blablabla. Puis les gens étaient comme, OK, cool. Okay. Bye. Ouais. j'ai écrit, bref, il y avait de la misère avec le small talk. Puis là... les enfants du quartier aimaient aller jouer des tours dans la cave de l'édifice où habitait Camille. Il y avait son appartement là-dedans, ouais. Mais c'est ça, il y avait comme une cave un peu accessible comme à tous les locataires. Fait que là, des fois, les enfants, comme ils rentraient, puis là, ils montaient le chauffage, ils s'amusaient à genre cogner à la porte puis se sauver. Genre, en tout cas, fait qu'ils
aimaient. Ce que les enfants font, là.
Ouais, ce que les enfants font. Mais là, Camille, qui n'était pas un adulte fonctionnel, normal, mettons, qu'il n'aurait pas une réaction normale d'adulte. Ben, il était vraiment fâché. Puis, il s'était acheté un chien aussi pour avoir un chien de garde contre les méchants enfants. Là.
OK. Il se disait pas, ah, oh, c'est juste des enfants, je vais passer par-dessus.
Non,
lui, ça le frustrait.
Il était vraiment fâché.
OK.
Et j'ai aussi vu dans la presse que Camille aurait 2 condamnations pour attouchement sexuel et 1 pour agression sexuelle. Fait que finalement, c'est ça. C'est peut-être pas juste des petits délits qu'il a fait.
OK.
Mais j'ai comme rien trouvé d'autre à part genre cette phrase-là. Fait que je suis comme... OK. Et j'ai aussi vu, encore dans la presse, que Serge, lui, il était un délinquant sexuel connu des policiers et qui avait déjà été condamné pour agression sexuelle sur un enfant.
Oh.
Et même que Serge ne pouvait plus voir son neveu parce que la famille avait peur qu'il l'agresse.
OK. Et Serge étant quand même l'idole de Camille,
ouais.
Il y a des chances que sa pédophilie est transposée.
Ouais, c'est ça.
OK. C'est mon opinion, là. On n'a pas de confirmation là.
Mais ouais, ça a des bonnes chances, là. OK. Alors, je reviens à l'enquête. Alors, les policiers, bon, connaissant ces frères Noël-là, ben là, à un moment donné, il y a un policier qui parle à un voisin de Camille de ce qui s'est passé. Puis là, le voisin, quand il croise Camille plus tard dans la journée, il raconte ce qui s'est passé, puis qu'un petit garçon a été tué. Et là, la réaction de Camille est vraiment étrange. Puis là, il dit tout de suite, « moi, j'étais partie hier à 16h, puis je viens de revenir. » Mais le voisin, il l'avait vu hier à genre 17h45. Fait que, tu sais, il savait tout de suite que c'était un mensonge.
Mm-hmm.
Fait que là, le voisin, il a reparlé aux enquêteurs 2 jours plus tard pour lui relater la conversation qu'il avait eue avec Camille, qui était bizarre. Alors, les policiers, ils regardent de plus en plus les frères Noël, ben, surtout Camille, puis ils décident de fouiller le sous-sol de l'immeuble avec où habite Camille, avec l'accord du propriétaire. Alors, ils font des prélèvements, et finalement, après des analyses, là, j'imagine que ça a pris des semaines, des mois, là, peut-être.
Oui.
Mais ils ont trouvé, dans le fond, ce qu'il y avait dans le sous-sol, peinture, brandissie, c'était la même matière qui se trouvait sous les bottes du petit Eric.
Oh!
Ouais, puis ils ont réussi à prouver ça.
OK.
Que le petit Eric a vraiment été dans le sous-sol, au fond.
Oh my God.
Alors, le 19 décembre...
Le sous-sol auquel tous les autres locataires ont accès, on se rappelle.
Ouais.
Wow.
Ouais, fait que ça, jusqu'à là, ça pourrait être n'importe qui habite dans l'immeuble ou qui a accès à ce sol-là. T'sais.
Non, mais dans le sens que quand il était là, n'importe qui aurait pu
effectivement.
Passer.
Effectivement, ouais. le 19 décembre, donc en fait vraiment pas longtemps après, fait que j'imagine que ces analyses-là sont venues plus tard, on interroge Camille. Mais juste comme témoin à ce moment-là.
OK.
Mais là, moi, c'est une question que j'ai, puis à nos gens qui travaillent qui ont des connaissances juridiques, mettons, là, ou judiciaires. Ils ont interrogé Camille, mais je me dis, quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, est-ce que c'est comme... Est-ce qu'il est considéré comme un mineur? Genre, est-ce qu'il faut qu'il soit accompagné d'un avocat ou d'une autre personne, ou tu sais, d'un adulte, dans le fond? Je sais pas.
Parce que tu peux pas interroger un enfant.
C'est ça, ils ont-tu le droit d'interroger quelqu'un quand il est tout seul? Je sais pas, c'est vraiment une question que j'ai.
Appel à l'aide.
Mmh. Fait qu'ils ont, en tout cas, bref, eux, ils ont interrogé Camille. Puis, tu sais, sa déficience faisait qu'il n'y avait pas vraiment la capacité de comprendre la situation puis les policiers, tout ce qui se passait, dans le fond.
OK.
Mais Camille, il finit par déclarer qu'il était là au moment du meurtre, mais que c'est pas lui qui l'a tué. Puis là, finalement, plus ça avance, il commence à parler de l'implication de son frère Serge. Puis que Serge avait parlé de kidnapper un enfant. Là, finalement...
Il s'incrimine de plus en plus.
Oui, il s'incrimine de plus en plus. Fait que dans le fond, là, ça, c'est la version... Qu'est-ce que Camille avoue à ce moment-là? Okay. Je te raconte. Alors, Camille, il dit qu'il avait décidé de faire peur au premier enfant qu'il verrait, lui puis Serge. Parce qu'il était fâché contre les enfants, puis il voulait leur faire peur.
Ah, oh, c'était comme sa vengeance des enfants qui ont joué dans du sol. Ah, oh, OK.
Fait que là, les deux, ils rôdent dans les rues pendant plus d'une heure avant de tomber sur un enfant seul, Eric. Camille, il va le voir, puis il lui dit de venir voir son hockey. Son hockey, je sais pas, son bâton de hockey, son jeu de hockey, je sais pas, qu'il avait chez lui. Puis Serge, il reste en retrait, puis il les observe un peu de loin. Ensuite, il fait qu'il ramène Eric, puis là, il joue au hockey dans le sous-sol. Mais là, éventuellement, Serge aurait tenté d'agresser Eric.
Sexuellement?
Ouais. Et là, Eric a pris peur, puis il s'est débattu, puis il a essayé de se sauver. Là, Serge aurait paniqué, il aurait pris une corde qui aurait enroulé autour de son cou du petit Eric, puis il aurait serré fort pendant que Camille le retenait. Puis il serait décédé de suffocation, dans le fond.
Tu sais, Camille a tout avoué ça?
Ouais.
OK.
Puis là, il dit que... ensuite, Serge, il a dit « Sors faire le guet » pendant qu'il s'occupe du corps. Puis, en attendant dehors, Camille dit qu'il a vu la mère d'Éric qui criait le nom d'Éric.
Oh my God.
C'est tellement horrible. Fait que là, il retourne en dedans.
Ah. Wow. C'est fou.
Il retourne au sol, puis il explique la situation. Fait que là, les deux frères, ils paniquent parce que là, clairement, on cherche Éric. Fait que là, ils réussissent à sortir le corps puis à le mettre dans le tunnel qui était à 40 mètres de l'appartement de Camille.
OK, il était vraiment à côté.
Vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le faire comme entre deux patrouilles de police. Genre. Ouais. Ensuite, les deux frères, ils rentrent chacun chez eux. Mais finalement, Camille, il dort pas, puis il se rend chez Serge pendant la nuit. Puis Serge, il aurait dit, on n'aurait pas dû faire ça, on va être en dedans pour Noël. Il avait raison. Parce que ça se passe le 19 décembre. Puis là, il aurait nettoyé le sous-sol au boyau d'arrosage le lendemain pour essayer de cacher les preuves, mais pas assez bien.
Ben non.
Bam.
Même pas de bleach.
Puis, mais là, Camille, il dit aussi que les jours précédents, Serge aurait parlé de kidnapper un petit gars et de l'agresser.
Prémédité?
Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas clair, là, parce que c'est Camille qui raconte, là, mais... Fait que Camille, lui, c'était un peu pour se venger, peut-être, des enfants, parce qu'il était fâché contre les enfants qui jouaient des tours, puis Serge, il y avait, derrière, dans l'idée d'agresser un enfant... Parce que c'était un agresseur.
Les deux avaient des motifs quand même solides pour l'histoire.
Mmh. Fait que là, le 20 décembre, le lendemain, ben là, Serge est interrogé. Là, Serge, il nie tout. Il nie complètement. Mais là, la version que lui donne, ça concorde pas avec tous les témoins qui l'ont vu comme à certaines heures, à certains endroits. T'sais, ça marche pas. Fait que là, Serge, il insiste même pour faire un polygraphe. Fait que là, ils font passer un polygraphe, mais apparemment qu'après 5 minutes, le polygraphiste a mis fin au test parce que Serge s'est comme mis sur les lieux du crime au moment du crime, alors que il essayait. En tout cas, il s'est comme.
Ah?
Il s'est trop il s'est trop mêlé dans ses mensonges, puis le Paul Graffy s'est fait bye. T'étais ça sert à rien d'autre.
Ouais. Tabarnouche. Il était mêlé dans ses mentries.
Ouais. Tu sais, c'est ça. C'était pas le plus brillant non plus, je pense.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Bon, pendant ce temps-là, les analyses sont faites, puis on sait que le petit Eric a été dans le sous-sol, puis on des objets chez Camille aussi. Chez Camille, ils retrouvent des cassettes avec des enregistrements, des nouvelles sur le petit Eric. Dans le temps, on enregistrait des choses sur des cassettes. Et même qu'un des voisins, il les a entendu rire pendant le bulletin de nouvelles qui parlait du petit Eric.
Aïe, aïe.
C'était pas bien insonorisé. Et aussi... là, je pense que, selon ce que je lis là, il y avait encore de la corde autour du cou du petit Eric quand ils l'ont retrouvé, parce qu'ils retrouvent comme la corde, une corde identique chez Camille. Ouais. Fait que...
Ah non, il n'y avait aucune chance. Là.
Non, vraiment.
Ils ont vraiment mal fait ça. Ouais. Tant mieux.
Puis,
tant mieux, mais...
Ouais. Mais ouais, tant mieux.
Dans le sens qu'on a pu les prendre.
Puis l'autopsie révèle qu'il n'y a aucune trace d'agression sexuelle. C'est, je pense que ça s'est passé trop vite. Puis okay. Serge n'a pas mis son plan à exécution de l'agresser. Et le petit Rick est mort par strangulation.
Pauvre petit cœur.
Puis plus tard, Camille amène les policiers. Puis le policier, un peu plus loin, il retrouve la tuque et le magazine des débrouilleurs. Puis le petit diplôme.
Oh, non!
Du petit Rick.
C'est mon diplôme!
Petit diplôme! Ça me donne envie de pleurer.
Ah, il avait 9 ans, le petit pet.
Oui, le petit pet.
Ah, ça me brise le cœur.
Oui, moi aussi. OK, les procès.
Ouais.
Fait que là, les deux sont accusés de meurtre premier et on décide de faire deux procès séparés afin que les frères puissent témoigner l'un contre l'autre, dans le fond.
OK. C'est une bonne stratégie.
Ouais.
Non?
C'est fâchant. Attends.
Oh, God.
Fait que là, le premier procès, c'est celui de Serge, le 4 mai 95. Alors, pendant le procès, Camille témoigne.
Hey, c'est bien longtemps après.
Ben non. C'est décembre 94.
Ah, c'est 94. Ouais. Okay. Oh, c'est en 86. C'est Eric qui...
Oui, Eric est né en 85. Ouais. Ouais, c'est fait que c'est genre 6 mois après.
OK, désolé. Ouais.
Mais c'est ça. Fait que là, Camille, c'est comme le témoin, dans le fond, dans le procès de Serge. Mais il arrête pas de changer sa version des faits. Parce qu'il est mêlé. Fait que le jury, il sait donc pas qu'est-ce qui doit être retenu. C'est vraiment pas un bon témoin, là. Puis, tu sais, il devait être ultra influençable comme témoin, là. Genre, tu peux lui faire dire ce que tu veux, au final, là. Pendant le procès, les membres du jury demandent de visiter les lieux du crime. C'est quand même spécial. Fait qu'ils ont fait tout le chemin. Les membres du jury ont fait tout le chemin parcouru par le petit Eric. Genre, le juge, les avocats, tout le monde s'est déplacé pour ça. C'est quand même spécial.
Et c'est la première fois qu'on entend ça.
Oui. Il y a deux délateurs qui étaient en cellule avec Serge qui sont venus témoigner. Les deux détenus avaient des body packs. Puis il y avait les aveux de Serge
enregistrés. Bon, ben là.
C'est quand même pas pire preuve. Alors, après 4 jours de délibération...
J'ai peur de ce que tu vas dire.
C'est fâchant.
Non.
Serge est acquitté par le jury au mois de juin 95.
Pour quelle raison?
Dans le fond, ce serait une mauvaise compréhension du jury. Parce que le jury, il pouvait comme pas le trouver coupable du meurtre au premier degré à cause du manque de preuves. Mais il pensait qu'en l'acquittant, il pouvait être accusé du meurtre deuxième. Parce que lui, il était comme « Ah, il n'y a pas assez de preuves pour savoir premier. Si c'était vraiment prémédité, puis nanana. » Mais on sait qu'il est coupable, fait que tu sais, on voudrait qu'il soit reconnu meurtre deuxième. Puis il aurait aussi mal compris, le jury aurait aussi mal compris qu'est-ce que ça voulait dire, la complicité.
OK.
Fait qu'à cause de ça, il était acquitté. Apparemment que le juge était fâché de la décision du jury, puis il est parti très brusquement de la salle de cour, alors que normalement, c'était un juge qui prenait le temps de saluer tout le monde, puis là, il était juste genre en tabarnak.
Ben, avec raison.
Avec raison.
En plus, qu'il savait personnellement qu'il était coupable, c'est juste qu'il voulait qu'il soit accusé deuxième.
Ouais.
Mais encore là, c'est mon manque de connaissances juridiques, mais le jury, il peut pas comme overrule, il peut pas comme...
Faudrait qu'il y ait un autre procès.
La décision du jury.
Je pense une fois que c'est rendu, c'est rendu.
Fait que c'est le jury qui décide, puis le juge, il n'y a rien à voir là-dedans?
Ouais.
Le juge, il peut dire juste non, moi, je suis pas d'accord.
Le juge, il peut juste influencer la sentence après.
Ah ouais?
Ouais.
Tabarnouche. Fait qu'il n'y a rien eu?
Il n'y a rien eu. Il est parti libre.
100% là, rien.
100%.
Ça, ça vaut un gros tabarnak.
Ouais.
Sérieux?
Ouais. Et là...
Il a étranglé un enfant de 9 ans à mort.
Mm-hmm. Et là, attends, c'est pas fini. Là, il reste le procès de Camille. Donc, en octobre 95, quelques mois plus tard, le procès de Camille s'ouvre. Fait que là, bon, évidemment, l'accusé, ben, Camille, il change de version, il affirme que c'est son frère qui a tué le petit Eric. Puis le procureur de la couronne, il contre-interroge sur ses aveux faits pendant le procès de Serge. Fait que là, c'est comme tout ce qu'il dit pendant le procès de Serge, ben là, c'est comme ramené comme preuve contre lui, tu sais.
Parce que le procès de Serge a eu lieu en
avant,
premier.
Avant, ouais. Mais ce qui est quand même pas... En tout cas, on continue. Fait que Camille, encore une fois, il semble pas comprendre tout ce qui se passe. Les avocats demandent des évaluations psychologiques. Le juge doit décider s'il est apte à subir son procès, puis le juge le trouve apte. Ce qui est limite, je trouve.
Ouais.
Alors, le 28 novembre 1995, après seulement 6 heures de délibération, Camille Noël est condamnée à la prison à vie, coupable de meurtre premier, 25 ans de prison ferme. Camille, apparemment, qui est restée de glace quand il y a eu le verdict. C'est vraiment fâchant.
J'ai même pas de mots.
Parce que là, t'as comme Camille, qui a un retard mental, que oui, il a fait le meurtre, mais clairement,
c'est pas lui
le mastermind. Puis
l'autre, il y a rien.
Puis l'autre, il y a rien.
Parce que le jury a mal compris.
Ouais. Ah, c'est vraiment fâchant. Puis là, ben là, la défense décide d'aller en appel parce qu'ils disent que, dans le fond, la couronne s'est illégalement servie du témoignage de Camille qui a fait pendant le procès de Serge. Genre, il n'avait pas le droit de prendre ça comme preuve, dans le fond. Ben, c'est ceux qui ont essayé d'amener en appel, dans le fond. Par contre, l'appel est rejeté et les avocats finissent par s'adresser à un plus haut tribunal, le plus haut tribunal du pays. Alors, en 2002... Dans un jugement d'une 50aine de pages, la Cour suprême du Canada ordonne la tenue d'un nouveau procès.
OK.
Pour Camille.
Serge. Pour Camille. Pour Camille?
Oui, parce que, dans le fond, ils ont réussi à prouver qu'il n'y aurait pas dû utiliser le témoignage qu'il a fait dans le procès de son frère. Alors, 8 juges sur 9 estiment que le ministère public s'est abusivement servi des aveux de Camille au procès de son frère pour les retourner contre lui à son propre procès. Cela va à l'encontre de l'article 13 de la Charte des droits. Camille Noël, à ce moment-là, a déjà purgé 7 ans de prison et il doit rester incarcéré jusqu'à son nouveau procès. Finalement, il y a une entente qui est faite. Dans le fond, les avocats de la Couronne et de la Défense sont entendus pour éviter d'avoir un autre procès. Ils vont réduire sa culpabilité à meurtre deuxième. Ce que, fait que grâce à ça, il pourrait bénéficier d'une numération conditionnelle plus rapidement, donc en décembre 2012.
OK.
18 ans après son arrestation. Mais, en septembre 2008, Camille est retrouvée mort dans sa cellule de prison de Port-Cartier, à 47 ans. Une autopsie révélera qu'il est mort d'une mort naturelle, en fait. Problème cardiaque.
OK.
Ouais.
Crime.
Et aujourd'hui, Serge est encore en liberté et il fait des cabanes à oiseaux qu'il vend.
Achetez-les pas.
Non.
Il est où, lui? À Magog?
Je sais pas s'il est resté à Magog, là, peut-être pas, là.
Ben, toutes les Serge Noël qui construisent des cabanes à oiseaux, il doit pas en avoir 2000.
Non, il doit pas en avoir
2000. Achetez-les pas. Maudit.
Ouais. C'est vraiment fâchant. Genre, c'est comme le mauvais des deux frères qui s'est ramassé en prison, tu sais. Ouais. Il aurait dû aller.
Mais il mérite la prison.
Ben,
aussi,
il mérite la prison, mais en même temps, quand même des soins particuliers parce qu'il n'est pas.
Mais
pas
imagine,
tout là.
Je veux dire, la famille du petit pet, même le jury. tu sais, qui a mal compris, qui pensait que lui, tu sais, il savait qu'il était coupable et tout, qui ont fait cette décision-là. Il était comme, OK, cool, il va être jugé meurtre deuxième. Tu sais, il pensait faire la bonne chose et tout. Puis là, boum.
Boum.
Le juge, qui est clairement en crise, genre, il y a tellement de gens que ça l'a dit. Puis Serge, lui, est mort.
Puis il y a un agresseur qui reste en liberté, là. Puis qui ne sert pas, genre, aucun temps de prison pour avoir tué un petit gars de 9 ans.
Puis ça, l'homme, ça reste un pédophile, je veux dire. Oui,
c'est ça,
il est
là.
Out there, là. Il est là.
Ah, c'est vraiment, vraiment fâchant comme histoire. Je l'avais écrit il y a longtemps, puis là, je l'ai relu comme cette semaine. Puis j'étais là, ah, c'est ton père fâchant!
Hey, c'est à ce jour l'histoire la plus frustrante.
Ouais, pour vrai, t'sais, il y en a eu des comme, ah, il n'y a pas eu assez. Ou non.
Ouais,
mais là, il n'y a rien eu.
Le pire dénouement
vraiment,
qu'on n'a jamais eu.
Vraiment. Puis, ben, venir
un
petit peu positif. En 2016, il y a eu un effort de revitalisation du tunnel par une équipe de jeunes qui se sont impliqués dans leur quartier avec un artiste. Fait qu'ils ont fait de la peinture dans le tunnel puis un meilleur éclairage.
C'est bien cute.
Ouais.
J'aime ça quand on finit avec une petite note positive quand même. Oh là là!
Voilà.
OK.
C'est ça.
Joyeux Noël.
Joyeuse
fête, comme on va dire.
Ouais.
Tabarnouche.
Ouais, c'est rough.
OK.
OK. Bon.
Fait qu'on vous laisse.
On vous laisse, qu'on est sur changer là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, joyeux Noël, bonne année. Bonne année. Oui. Et on va prendre un petit congé en janvier. Sauf pour nos fans Patreon. Vous allez quand même avoir votre épisode bonus de janvier. Avec plein de potins croustillants.
Oh yeah.
Et on va être de retour en février, en forme.
Oui, pour ma fête.
Oui, c'est vrai.
Hi-hi.
Et sinon, ben oui, vous pouvez vous commander de la merch. Elle est là.
Elle est là.
Même si c'est passé Noël, vous pouvez encore en commander.
Oui.
Et c'est ça. Faites nous suivre sur Patreon si vous ennuyez trop de nous en janvier. On a du contenu bonus exclusif.
Ouais, on aime vraiment ça. J'aime ça faire les petits short épisodes de... des petits bonus.
Oui,
c'est
vraiment le fun.
Des petites histoires, des petites informations. C'est le fun. Puis merci encore de nous suivre, de nous encourager. Ça nous aide tellement.
Tellement.
Vraiment beaucoup. On a plein de projets à venir. Ça va être nice 2023.
Oh yeah!
Fait que merci beaucoup. Bon temps des fêtes. Désolée, mon téléphone n'est pas fermé. Bon temps des fêtes. Profitez bien. Prenez soin de vous. Faites la fête.
Ouais.
On n'a pas de COVID, on n'a pas de couvre-feu, on est free. Et voilà, nous, c'est notre premier Noël / temps des fêtes avec nos cocottes.
Oui!
Ça va être
c'est
cool.
Vrai.
Oui. Fait que envoyez-nous des photos de n'importe quoi. On aime ça vous voir, on aime ça vous lire, puis on aime ça partager des beaux moments avec vous.
Oui! Alors, donc, on se revoit en 2023.
En février.
Bye!